pour le dernier exposé de la journée, on reçoit Hugo Jamert du Labri, un collègue du Labri, et qui va vous réconcilier, ou pas, avec Parcoursup. On termine en beauté. Voilà Hugo, à toi.
Bonjour à tous. Merci Hervé pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler de Parcoursup et des algorithmes de Parcoursup. Je travaille sur Parcoursup depuis son lancement. Vous avez dû tous en entendre déjà parler, en tant que prof du secondaire ou prof d'université aussi d'ailleurs. Voilà, j'espère que vous n'avez pas amené trop de tomates, ou qu'au moins qu'elles ne sont pas trop mûres. Voilà. On verra. Alors... Ok, alors l'accès à l'enseignement supérieur en France, aujourd'hui c'est plus de 900 000 candidats chaque année. Bon, vous avez les néo-bacheliers, vous avez aussi des gens en réorientation. Il y a plus de 14 000 universités, BTS, UUT, prépa, bref, tous les types de formations en France, et c'est assez diversifié, les écoles, les IFSI, les centres d'apprentissage. Et se pose évidemment une question cruciale. Quels candidats peuvent aller dans quelle formation, okay. Alors, je fais un petit rappel historique. Là, comment ça se passait avant, dans les années 80. Voilà. Donc là, vous avez quelques copies d'écran d'une vidéo INA, donc, dont le lien est en bas du slide. Donc, dans les années 80, l'accès à l'enseignement supérieur, c'était des queues devant les universités, voilà, à minuit et demi la veille. Il y a plusieurs témoignages. En gros, l'idée, c'était de faire la queue à l'université. On arrivait, on montrait son diplôme de bac. S'il restait des dossiers d'inscription dans le carton, c'était bon, on était pris. S'il n'y en avait plus, il fallait se précipiter dans une autre université. Et il y a vraiment des témoignages d'étudiants comme ça qui disent bah, « il n'y a plus de place en LEA, je vais aller en médecine vite fait, parce que, voilà. » En espérant qu'il y ait encore des dossiers, mais c'était ça se passait vraiment comme ça. Donc voilà. Pardon ? Ouais, ce sont des vidéos d'archives, c'est authentique. Donc le lien est en bas, c'est assez marrant. Si vous avez après accès au slide, vous pouvez cliquer dessus. Et puis... Ok. Donc, ensuite, on s'est modernisé, parce qu'en France, on avait... Pardon ? Ouais. En France, on a des idées, et surtout dans les années 90, on avait le Minitel. Okay. Ah. Hein, vous vous souvenez, vous aviez oublié, hein, hein, vous aviez oublié, non, ouais. Ça s'oublie vite quand même. Hein, ouais. Donc il y avait 3615 Ravel, 3615 Racine, 3615 Bretasup pour la Bretagne. C'est authentique aussi. Voilà, donc ça a commencé à se moderniser, mais comme vous voyez, c'était pas encore global non plus. Hein, Bretasup, c'était orienté sur la Bretagne, donc voilà. Ensuite est arrivé Internet, avec admission post-bac en 2009, et Parcoursup en 2018, le dernier maillon de cette chaîne. Okay. Voilà pour le rappel historique. Alors c'est une plateforme donc, nationale, évidemment c'est un sujet sensible, parce que pour les candidats qui veulent accéder à l'enseignement supérieur, ils jouent un peu leur vie, finalement, d'une certaine manière. Hein. Côté formation, c'est aussi très important de s'assurer un bon recrutement efficace, etc. Donc, comme c'est très important, c'est aussi très débattu. Donc là, je vous ai mis quelques copies d'écran. Voilà, Parcoursup, Percherie, et différents sujets d'actualité liés à Parcoursup, l'algorithme de Parcoursup, les algos locaux... le débat sur la hiérarchisation, les manifs, etc. Bon. Au fond, voilà, il y a aussi, du fait que la plateforme est devenue nationale, elle cristallise aussi, quand même forcément, un ressentiment qu'il y a par rapport à la sélection dans l'entrée de l'enseignement supérieur. C'est difficile à avaler quand on ne peut pas aller dans la formation qu'on visait. Et plus la plateforme, finalement, se globalise, plus elle cristallise les tensions. À juste titre, hein, c'est sain d'avoir un débat sur ce sujet assez vital. Voilà, alors là je vais vous montrer un mini exemple qui montre pourquoi c'est pas si évident d'affecter les candidats dans l'enseignement supérieur. Donc on va juste prendre deux candidats à Alice et Bob, deux universités, donc université Poincaré de maths, université Turing d'informatique. Elles ont toutes les deux une seule place, okay, donc c'est tout bête. Alice préfère les maths, Bob préfère l'informatique, ok. Alors il y a des cas où c'est facile de les affecter. Par exemple, si l'université Poincaré de maths préfère Alice, Bon, dans ce cas, Poincaré et Alice se préfèrent mutuellement. Là, voilà. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas les mettre ensemble. Okay. D'ailleurs, si on ne les mettait pas ensemble, ils pourraient se plaindre du système en disant « Mais attendez, elle voulait aller chez moi, je voulais d'elle. » Donc, voilà. Donc forcément, on va les apparier ensemble, on va envoyer Alice à Poincaré. Et donc, Bob va aller à Turing. Donc, Bob est content vu qu'il aime l'informatique. Turing peut-être préférait Alice, mais dans ce cas-là, c'est clair qu'il faut envoyer Alice à Poincaré. Cas symétrique, Turing, l'université d'informatique, préfère Bob. Bon, Turing et Bob se préfèrent mutuellement. Clairement, on va les apparier. Bon, voilà. Et il y a le troisième cas qui fâche un peu, au sens où il se peut que finalement Bob préfère l'informatique, mais l'université de maths préfère Bob, et inversement, Alice préfère les maths, et l'université de... Pardon, excusez-moi, je me souviens. L'université d'informatique préfère Alice. Bref, les préférences sont inversées entre celles des candidats et des formations. Dans ces cas-là, quelque part, il n'y a pas de bonne solution, en fait. Il faut donner une priorité, soit aux préférences des formations, donc dans ce cas-là, on envoie Bob en maths, tant pis pour lui, ou aux candidats, dans ce cas-là, on envoie Bob en informatique, tant pis pour Turing. Okay, donc il y a des préférences potentiellement contradictoires, donc c'est pas trivial d'affecter les gens dans les formations. Alors que nous dit la théorie d'abord, avant de passer à la pratique? Donc une théorie mathématique qui permet de gérer finalement ces problèmes d'allocation de ressources bipartites. Donc là on est sur des allocations bipartites, on va mettre pour une place dans une formation, il y aura exactement un candidat, et on va donner au plus une formation à un candidat, pas plusieurs, donc on est sur un cadre d'appareillement bipartite. Pour ça, il y a le cadre formel et conceptuel des mariages stables, qui est avant tout un algorithme qui a été inventé par Gale et Shapley, l'algorithme des mariages stables, qui est un algorithme tout simple. En fait, on répète une procédure, on répète une boucle, jusqu'à ce que chaque école soit complète ou ait épuisé sa liste de candidats. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque école envoie des propositions à ses candidats préférés, évidemment dans la limite de sa capacité d'accueil. Ok. Les candidats reçoivent des propositions, certains n'en reçoivent pas, certains en reçoivent une, certains en reçoivent plusieurs. S'ils en reçoivent plusieurs, ils vont sélectionner leur proposition préférée et ils vont rejeter les autres, finalement. Okay. Donc, à partir de ce premier round, les écoles ont reçu un certain nombre de oui et de non. Bon, les oui sont des places qui ne sont plus vacantes, les non sont des places vacantes, donc ils vont renvoyer des propositions. Éventuellement, des candidats qui avaient dit oui avant à l'université vont recevoir du coup des nouvelles propositions et vont décliner la proposition précédente pour accepter la nouvelle. Donc on voit qu'on va, à chaque étape finalement, ce qui se passe au niveau des candidats peut varier. Mais ce qui est monotone, c'est que les formations vont descendre de plus en plus bas dans leur liste de candidats. Et l'algorithme se termine quand une formation soit arrivée au bout de sa liste, soit fait le plein. Okay. Donc on voit qu'il y a une asymétrie dans cet algorithme, puisque ce sont les écoles qui prennent l'initiative. Les offres des écoles aux candidats, les propositions sont fermes. Hein, une école ne peut pas revenir sur une proposition. Par contre, un candidat peut accepter une proposition, puis finalement la rejeter un peu plus tard dans l'algorithme. Donc les réponses des candidats sont temporaires. Donc on voit l'asymétrie. Donc dans le cas, le petit exemple que je vous ai présenté avant, comme l'initiative est donnée aux écoles, on aurait l'appareillement qui était favorable aux écoles. Il y a une version symétrique de l'algorithme qui est plus favorable aux candidats. Alors, juste un petit exemple, mais bon, je pense que vous êtes rompu à... Enfin, vous êtes déjà familier de cette procédure, mais un exemple, on a 200 candidats à Lille pour 100 places, 140 candidats à Bordeaux pour 100 places. Étape 1, Bordeaux et Lille proposent simultanément aux 100 premiers de leur classement. Ah, j'ai peut-être un pointeur. Ouais, merci. Ok, marche pas. Tiens, je vais faire avec la souris. Donc Bordeaux et Lille envoient 100 propositions. Donc il y a 30 candidats appelés seulement par Bordeaux, 30 candidats seulement par Lille, 60 candidats appelés par les deux. Les candidats qui sont... Ah ouais, merci. Super. Oui, merci. Les candidats qui sont appelés par les deux vont répondre oui ou non. Donc là, en rouge, vous avez les noms, en vert, vous avez les oui. finalement, à l'issue de la procédure, enfin à l'issue de la première étape, Bordeaux a 50 oui. Il ne reste plus que 50 candidats et encore 40 places libres. Lille a 80 oui et encore 100 candidats et 20 places libres. Donc on voit que Lille est bien partie pour faire le plein, alors que Bordeaux commence déjà à se poser des questions vu qu'il n'a plus que 50 candidats pour 40 places. Et ça, c'est, je prends un peu d'avance sur la pratique, mais c'est le déroulé de l'algorithme dans Parcoursup, dans plusieurs écoles. En fait, on voit au cours du temps la profondeur dans laquelle les écoles sont descendues dans leur classement. Donc, par exemple, la verte, ici, au bout d'un moment, arrive au fond de son classement, donc elle a appelé tous les candidats. Vraisemblablement, il lui reste des places vacantes, mais c'est fini pour elle. A l'inverse, vous voyez que, par exemple, l'école rouge, ici, assez rapidement fait le plein, et finalement, ensuite, elle n'a plus de désistement, donc sa procédure a convergé. Voilà, et vous avez différentes typologies. Celle-là, on voit qu'elle a un petit peu du mal à converger, on pourra en parler un peu plus tard. Voilà. Alors, derrière cet algorithme, enfin, pourquoi c'est un bon algorithme ? Parce qu'il y a un théorème derrière. Un théorème d'abord qui dit que l'algorithme termine, mais ça c'est assez trivial, puisque comme je vous l'ai dit, on descend de plus en plus bas dans la liste, donc on ne va pas s'arrêter un jour. Mais surtout, la propriété intéressante, si les candidats et les écoles reportent leurs préférences honnêtement, alors l'appariement qu'on obtient à la fin est stable. Alors qu'est-ce que ça veut dire, stable ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de paires candidat-école qui sont appariés et qui se préféreraient mutuellement à ce qu'ils ont obtenu dans le matching. Okay ? Donc finalement, pour chaque paire candidat-école qui ont été matchés, chacun est content, ou en tout cas, c'est le mieux qu'il aurait pu obtenir dans la situation de l'appariement final. Donc ça, c'est une petite bande dessinée sur Internet qui explique un peu le principe. Donc c'est... je vous laisse regarder, mais... en gros, c'est une déclaration d'amour, mais sous... enfin, en mode mariage table. Je suis tellement heureux d'être avec toi. C'est toi que j'aime le plus parmi toutes les femmes du monde. Qui veut le bien de moi ? Donc c'est un peu ça le principe d'un mariage table, c'est qu'on est avec la meilleure personne possible, la meilleure école possible, parmi toutes celles qui veulent bien de vous. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors il y a aussi une autre belle propriété, c'est une propriété d'optimalité pour les écoles. Chaque école recrute les meilleurs candidats possibles parmi tous les appariements stables. Donc sous condition de stabilité, les écoles sont garanties d'avoir le meilleur pool de candidats possible. Okay, il n'y a pas de meilleur appariement stable pour les écoles que celui calculé par l'algorithme de Gall et Chapelet. Voilà. Donc ça fait une solide base conceptuelle pour s'attaquer à ces problèmes d'appariement. Et c'est d'ailleurs un algorithme qui est utilisé... partout dans le monde, par les différents pays qui gèrent leur accès à l'enseignement supérieur avec des, avec des algorithmes. Alors je vous donne un autre point de vue sur le même algorithme. En fait, finalement, l'algorithme détermine des barres d'admission dans chaque école, okay, dans le classement. Et il y a une première condition évidente, c'est qu'une condition d'admissibilité, on ne veut pas de surcapacité dans aucune école, chacun a fixé un nombre de places données. C'est-à-dire qu'en supposant que chaque candidat sélectionne son école favorite parmi celles dont il passe la barre, on ne veut pas qu'il y ait de surcapacité. Et on veut également des barres d'admission qui soient les plus hautes possibles, au sens qu'il aille le plus loin possible dans le classement, pour remplir les formations au maximum. Okay. Et un petit théorème, l'ensemble des barres admissibles, donc une barre c'est quoi hein, c'est juste un vecteur d'entier indexé par les écoles, chaque entier étant compris entre 0 et le nombre de candidats classés. L'ensemble des barres admissibles, donc en ce sens, qui ne crée pas de surcapacité, c'est un treillis, donc en particulier il possède un maximum global. Alors une petite démonstration, je ne sais pas si je vais prendre le temps de la faire, mais si vous voulez on en discutera au moment des questions. Et finalement l'algorithme de Gall et Chapelet calcule le maximum global de ce treillis, plus ou moins, Enfin, en tout cas, on peut en déduire la solution de Gaël et Chapelet, le maximum global de Strilly. Et cette propriété, j'utiliserai plus tard pour parler des internats. Oui. Alors en fait, chaque paire de vecteurs de barres admissibles possède, alors on munit d'un ordre partiel qui est un vecteur est plus grand qu'un autre s'il est plus grand sur chaque composante. Okay. Chaque paire de vecteurs a un minimum commun et un maximum commun. Donc en fait, alors minimum c'est évident parce qu'en fait le vecteur 0, 0, 0, il est admissible, vu que ça revient à refuser tout le monde partout, il n'y a pas de surcapacité. Donc clairement, il y a un minimum global. Pour le fait qu'il y a un maximum commun, c'est un peu plus subtil. Donc en fait, si vous prenez deux vecteurs B1, Bn et B1', B'n, si vous prenez le maximum composante par composante, alors ça vous fera également un vecteur admissible. Donc là, je ne peux pas m'arrêter sans finir la démonstration, qui n'est pas trop méchante. Mais... Pourquoi est-ce que en prenant le maximum composante par composante, on obtient de nouveau un vecteur admissible? Bah, par l'absurde, supposons qu'on a une surcapacité, par exemple dans la première école ici. Okay. Et sans perte de généralité, supposons que ce soit B1 le maximum des deux. Okay. Donc ça veut dire que dans cette école, avec ce système de barres d'admission, on a une surcapacité dans l'école numéro 1, en étant descendu jusqu'à B1. Et ça c'est bizarre, parce que finalement, en fixant B1, comme ici, vous voyez que sur les autres composantes ici, toutes les autres composantes sont supérieures à B2, Bn. Normal, puisqu'on a pris un maximum à chaque fois que B2, Bn. Donc finalement, ça veut dire que dans cette configuration, les candidats qui sont pris à B1 ont encore plus de possibilités ailleurs qu'ils n'avaient dans cette configuration ici. Donc vous devriez avoir normalement au plus autant d'admis dans cette configuration dans l'école S1 qu'il y en a ici. Donc vu que celle-là n'était pas en surcapacité, celle-là ne peut pas l'être non plus. Fin de la démonstration. Ok ? Voilà, donc on a une jolie structure sur cet ensemble de vecteurs admissibles. Pardon. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions pendant l'exposé, il n'y a pas de... Ouais, ok. Alors, maintenant qu'on a vu un peu la théorie, passons à la pratique, puisqu'il y a souvent un gap de la théorie à la pratique. De la loi au code. Alors, un peu de contexte encore. Comment est né Parcoursup? Parcoursup est né sur les cendres d'APB, qui s'était fait épingler sur plusieurs aspects par différents acteurs institutionnels, notamment la Cour des comptes et la CNIL, qui avaient donné un peu un carton rouge. En parallèle, au Parlement, était votée la loi ORE, Orientation Réussite des étudiants. Et dans la foulée, du coup, au niveau du MESRI, ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, a été décidé de créer Parcoursup. Bon, déjà pour rebrander APB, qui avait vraiment maintenant une très mauvaise presse, y compris au niveau institutionnel, et également pour intégrer les évolutions de la loi ORE. Voilà. Moi, personnellement, je suis rentré dans le projet, enfin, j'ai commencé à travailler sur Parcoursup dès ce stade, dès 2017, en tant que chargé de mission, et également, à l'époque, il y avait Claire Mathieu, qui est également chargée de recherche au CNRS, qui était également chargée de mission. Et on a été chargé d'accompagner la création de Parcoursup, notamment sur les aspects algorithmiques. Alors, vous allez voir plusieurs fois cette image, parce que ça image une partie de la mission qui nous était confiée. Finalement, il y avait cette nouvelle loi ici, qu'il fallait traduire en partie, hein, bien sûr, hein, il y a toute une partie de la loi ORE qui n'est pas algorithmique, mais il y a des éléments algorithmiques, qu'il fallait traduire en algorithme, et ensuite en code informatique. Okay, parce que, il y a une distinction qui n'est pas forcément faite au niveau du grand public, mais je pense pour des profs de maths c'est une évidence, mais vous avez la notion d'algorithme, qui est le principe mathématique qui permet d'effectuer un calcul de manière automatisée, voilà, de préférence implémentable sur une machine de Turing, c'est toujours mieux. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez défini ce principe mathématique, le travail n'est pas terminé, il faut l'implémenter, le transformer en code machine pour qu'il soit vraiment exécutable et qu'il rentre en opération, en production. Et ce sont des étapes qui demandent des compétences et des modes opératoires différents. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme nouveauté dans la loi ORE par rapport à APB ? Bon, il y en avait plein, mais je vais faire un zoom sur deux, les deux nouveautés un peu algorithmiques. D'abord, dans APB, il y avait une demande qui était faite aux candidats, c'était au moment où ils faisaient leurs vœux pour les différentes formations, ils devaient les hiérarchiser, donc les ordonner par ordre de préférence, les ordonner sous forme d'une liste, voilà, ça c'est mon préféré, mon deuxième, mon troisième. Ça, avec Parcoursup, ça a disparu, c'était la fin de la hiérarchisation des vœux. Sans cette hiérarchisation, alors que APB fonctionnait en trois rounds, à trois dates bien précises, bien connues à l'avance, Parcoursup fonctionne au fil de l'eau. Tous les jours, il y a des nouvelles propositions envoyées aux candidats, et tous les jours, il y a des réponses de candidats qui ont un temps limité pour répondre. Et les réponses négatives et les démissions des candidats sont réinjectées pour reproduire de nouvelles propositions, ainsi de suite. Okay. Sur le fond, dans les deux cas, c'est bien un algorithme du type Gale-Chaplet qui tourne, mais c'est une implémentation différente, au sens où dans APB, finalement, les candidats donnaient toutes les réponses possibles à l'avance, alors que dans Parcoursup, on leur demande leur réponse au fur et à mesure du déroulé de la procédure. Ce qui est moins efficace, à la fois moins efficace et plus simple. Et il y avait également une nouveauté au niveau des taux minimums de boursiers, donc une forme de discrimination positive, même si le terme n'a pas été employé au niveau du ministère, mais c'était une forme de coup de pouce pour les plus bas revenus, enfin, coup de pouce pour les candidats issus des familles aux plus bas revenus. Et je voudrais parler de, justement, de ces taux minimums de boursiers. Comment est-ce qu'on les a, comment est-ce qu'on les traite? Donc le texte de référence, la loi ORE, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de boursiers bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l'accès à cette formation et le nombre total de demandes d'inscription dans cette formation. Voilà. Et la mission, c'est à partir de ça, faire un algorithme. Okay. Donc on voit qu'on est quand même loin d'un algorithme. On n'est plus sur un principe. On comprend qu'on va pouvoir s'accrocher. Là, il y a une histoire de pourcentage, donc ça c'est pas mal, c'est concret. Il y a un chiffre. Voilà. Dans le contexte, on comprend que c'est pas nous qui allons avoir à fixer ces pourcentages, c'est le recteur qui va s'en occuper. Bon, très bien. Voilà. Et ensuite, pour le reste, bon, voilà. Ok. Comment est-ce qu'on doit interpréter ce passage de la loi et comment est-ce qu'on peut en faire un algorithme? Alors, ouais, voilà, interprétation. Donc, globalement, l'intention, c'est quand même, pour caricaturer, s'il y a 10% de candidats boursiers, il doit y avoir 10%. Alors, j'ai mis candidat, mais je me suis trompé. Il doit y avoir 10% de boursiers parmi les candidats admis. Ok. Désolé pour la typo. En fait, j'ai retraduit des slides de l'anglais aujourd'hui. Il reste d'y avoir 2-3 typos qui traînent. Ok. Bon, mais alors garantir un taux minimum d'admis boursiers, c'est difficile. En fait, c'est même un peu mission impossible, parce qu'en poussant un peu le bouchon, on peut imaginer que tous les boursiers refusent les propositions et tous les non-boursiers les acceptent. Donc à l'arrivée, on aura 0%. Donc mission échec. Ok. Donc pour cette raison et aussi pour une autre raison liée aux internats, donc dont j'aurai peut-être le temps de parler, on a choisi de garantir un taux minimum de propositions faites aux boursiers. Ça, c'est plus facile. Okay. Okay. On garantit qu'au moins 10% des propositions sont faites à des boursiers. Donc, quelque part, on respecte l'esprit de la loi sans rentrer dans cette impasse de gérer le nombre d'admis. Il y a d'autres avantages à cette interprétation, notamment... Si vous voulez garantir le taux d'admis, vous allez avoir besoin de surveiller vos quotas au fil de l'eau. Et ça va être compliqué d'annoncer à l'avance aux candidats, par exemple, des choses comme les rangs sur liste d'attente. Puisqu'il va y avoir peut-être des boursiers qui vont leur repasser devant. Ou alors il va falloir un petit peu trouver des notions de rangs sur liste d'attente un peu exotiques, etc. Mais bon, là au moins, comme je vais vous montrer, quand on garantit le taux minimum de proposition, on peut le faire... ex ante au début de la procédure, avant l'envoi des propositions, et c'est une bonne chose de fait. Et ensuite, on sait où on va. Donc comment est-ce que marche l'algo qu'on a... Bon, c'est un algo, c'est assez trivial, mais qu'on a conçu avec Claire Mathieu. Donc exemple, vous avez 15% de candidats boursiers pour l'Université de Bordeaux sur Parcoursup. Le recteur, qui est le recteur de Paris, d'ailleurs pas de Bordeaux, mais j'ai pas retrouvé la photo de celui de Bordeaux. Bao. Oh, je suis désolé, une rectrice. Je suis complètement politiquement incorrect. Donc la rectrice de Bordeaux, donc je vous promets de mettre sa photo la prochaine fois, si elle est d'accord. Bao, je suis sûr qu'il est d'accord. Donc il fixe le taux minimum à 20%, parce qu'en général, il y a un petit bonus en plus. C'est-à-dire qu'on prend le taux parmi les boursiers, le taux parmi les candidats, et puis il y a des petits bonus, surtout en CPGE, etc. Bon, l'Université de Bordeaux envoie à Parcoursup son classement. Okay. Donc le classement se lit de gauche à droite, les X sont des non-boursiers, les B sont des boursiers. Là, on voit qu'elle n'a pas été très sympa avec les boursiers, parce que le premier boursier est à la... loin dans le classement, à la 12e place, je crois, puis après, il y a encore quelques boursiers tout au fond du classement. Là. Bon, ça ne va pas. On voit bien qu'on ne respecte pas les 20%. Donc là, il y a le calcul de l'ordre d'appel qui intervient, qui va transformer le classement en remontant les boursiers dans le classement, avec une propriété toute simple. On veut satisfaire le taux minimum de boursiers sur tous les préfixes du nouveau classement. Okay ? Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, il faut satisfaire le taux de boursier sur le préfixe de taille 1. Okay ? Bon, sur le préfixe, vous êtes enseignant en maths. Sur le préfixe de taille 0, c'est facile. Okay. Sur le préfixe de taille 1, alors combien fait 20% de 1 ? Alors on arrondit au supérieur, parce qu'on est là pour aider les boursiers, pas pour leur... Il n'y a pas des zéros, il n'y a pas des moitiés de boursiers ou des quarts de boursiers. Okay. Donc on veut un boursier dans le préfixe de taille 1. Donc déjà celui-là, il remonte tout au début, ici, vous voyez. Voilà. Donc en fait, dans Parcoursup, globalement, dans toutes les formations, le premier du classement, c'est toujours un boursier. Voilà. Sauf dans les cas extrêmes où il n'y avait aucun boursier candidat, mais maintenant je crois que les taux boursiers s'appliquent. Alors à toutes les formations du public, c'est sûr, et tous les privés sous contrat aussi. Il y a peut-être que dans certains privés hors contrat où ce n'est pas encore appliqué. Voilà. Donc vous avez toujours un boursier en tête. Ensuite, on avance dans le classement. Donc là, on est à 100% de boursiers, on est content. 50%, 33, 25, 20, ça va encore. Là, si on allait plus loin sans boursier, on descendrait en dessous. Un pourcentage avec des virgules. Okay, donc ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le deuxième boursier, hop, on le remonte également. Ok ? Et on continue comme ça, donc c'est un algorithme glouton, puisqu'il finalement il calcule son résultat en ligne, en absorbant les données en ligne. Et on aboutit finalement à cet ordre d'appel où on voit que les 4 boursiers, d'ailleurs qui sont devenus 5 boursiers par magie, bon, sont remontés dans le classement. Oui ?
Est-ce que l'algo garantit qu'aucun boursier ne
voit
son rang
descendre ? Ah oui, ça c'est sûr, ouais, c'est sûr. Si, c'est sûr. Parce qu'un boursier ne peut être... Si un candidat est doublé par un autre, c'est forcément un non-boursier doublé par un boursier. Un boursier ne sera jamais doublé par un boursier. Parce que déjà, on conserve le classement entre les boursiers. Ça, c'est sûr. On les fait monter dans l'ordre. Okay. Donc un boursier ne verra jamais quelqu'un lui passer devant. Jamais. Par exemple, quand je fais remonter ce boursier-là, ces boursiers-là étaient déjà derrière. De toute façon. Donc finalement, pour eux, c'est un dollar. Ça ne change pas leur place dans le classement. On est d'accord ? Ah oui, 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 on ne va pas les faire redescendre. C'est toujours en leur faveur. Oui, oui, excellente question. Non, non, il faut que ce soit clair. Ouais. Exactement, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement, parce que comme on est sur 20%, bon, ça tombe juste. Ouais. Ah oui, non, on aurait pu commencer par exemple avec 2 boursiers ici qui n'auraient pas bougé. Et on aurait attendu 8x en te faire remonter un boursier. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que quand je fais remonter un boursier, c'est un dollar pour ceux qui étaient moins bien classés. C'est un dollar. C'est-à-dire que ça ne change pas leur classement. Ça, c'est sur un exemple. Hein,
Mais
Oui. Oui, oui, bien sûr. J'ai jamais dit qu'il y avait forcément 4x ici. Sur cet exemple, c'est le cas. Mais ouais, ouais. Par contre, ce que je dis, c'est qu'un boursier ne sera jamais dépassé par personne. Donc, il descendra jamais dans le classement. Éventuellement, il peut remonter dans le classement. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous allez voir, c'est très bien parce qu'on va, on va en reparler. Alors, je vais passer vite là-dessus. Il y a la même chose pour garantir qu'il n'y ait pas trop d'extérieurs qui arrivent en licence. Donc, il y a aussi des coefficients, des taux maximum de hors secteur. Par exemple, pas plus de 2% de non-parisiens à Assas. Et dans ces cas-là, si vous avez un non-parisien en tête de classement, c'est le contraire. Il va redescendre tout en bas du classement, potentiellement. Il va dégringoler de 50 places. Oui, non, mais ça arrive vraiment. Ouais. Oui, c'est vraiment le cas, ouais. Ouais. Je me souviens, un institut, comment ça s'appelle ? L'INALCO ? Non, ouais, je crois que c'est ça. De langue, il y avait vraiment des dégringolades comme ça, c'était... Bon, voilà. Petite anecdote, enfin anecdote qui était... La première année de Parcoursup, c'était vraiment non-parisien au sens de l'Académie de Paris. Et du coup, il y avait vraiment un effet d'exclusion en Ile-de-France par rapport aux candidats des académies de Créteil et de Versailles, puisqu'à quelques centaines de mètres près, ils se retrouvaient, ils faisaient la dégringolade. Okay. Donc, dès 2019, il y a un sénateur, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre les trois académies de l'Ile-de-France. Donc, ça... Voilà. Ça a réglé ce problème. Mais pour les, par exemple, les licences de Bordeaux sont protégées des Parisiens quelque part, au sens où il y a une préférence locale pour les. Non, ça c'est uniquement en licence et uniquement les licences dites non sélectives. Voilà. Non, en prépa il y a pas ça. En prépa il y a que les taux boursiers. En BTS, IUT il n'y a que les taux boursiers. Voilà. Alors ce système de double taux, il y a un petit dilemme éventuellement. Je vous donne encore un exemple. Minimum 10% de boursiers, maximum 2% de hors secteur. Le problème, c'est qu'on a un seul boursier sous la main, et il est également hors secteur. Que doit-on en faire? Donc si on s'amuse à appliquer un algorithme, puis l'autre, effectivement, il va... Donc, voilà. Donc finalement, ça, c'est anecdotique. Dès 2017, on s'en a aperçu avec Claire Mathieu qu'on allait avoir ce problème-là. Bon, ça va vite, en fait, réfléchissant au problème. À ce stade, la loi Heureux était encore en projet, c'était encore un projet de loi, donc on a dit on va avoir ce problème, et du coup c'est devenu, ça a été fixé dans la loi Heureux, la solution à ce dilemme, c'est-à-dire que les pourcentages minimales bacheliers ont la priorité, donc on peut déroger au pourcentage maximal de hors secteur si c'est pour respecter le pourcentage minimal de bacheliers. Donc il y a une hiérarchie qui a été fixée entre ces deux contraintes. Voilà. Oui. Super, merci pour cette transition vers la suite de mon exposé. Merci pour toutes les deux parce que c'est des. Donc je vais vous répondre, peut-être pas immédiatement, mais très très rapidement. Voilà. Donc, ah oui, vous voyez, j'étais pas sûr, j'ai pas tout en tête. De la loi au code transparence. Alors, qu'est-ce qu'on veut éviter ? Qui était un petit peu l'ambiance avec APB. Pourquoi n'ai-je pas été accepté ? C'est l'algorithme, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est l'ordinateur qui a décidé. Bon, c'est pas quelque chose qui est acceptable pour des décisions aussi importantes. La réponse ne peut pas s'arrêter à ça. D'autant plus qu'au niveau légal, il y a des principes qui commencent à être établis. Loi pour une République numérique... en tant que citoyen français, vous avez un accès aux algorithmes utilisés par les administrations au même titre qu'aux documents des administrations. C'est-à-dire que vous pouvez saisir la CADA pour dire, par exemple, je veux l'algorithme de Parcoursup ou je veux l'algorithme d'affectation dans le lycée, etc. Dès qu'une administration utilise un algorithme, vous avez le droit d'y avoir accès, sauf dans les cas type secret défense, armée, etc. Ok ? Donc une bonne pratique, il ne faut pas forcément attendre que quelqu'un saisisse la CADA pour révéler l'algorithme. C'était ce qui s'était passé avec APB, quelqu'un avait saisi la CADA, donc une association d'étudiants. Qu'est-ce qu'avait fait le ministère ? Ils avaient imprimé des listings SQL, et ensuite ils avaient rescanné de travers, et ils avaient envoyé. Donc c'était difficilement exploitable. Donc la première chose à faire, c'est d'aller recopier les scans en SQL pour en faire vraiment du code informatique, parce que le code informatique, c'est pas en papier, c'est digital. Donc une bonne pratique, c'est pour les administrations de publier leurs algorithmes, le cahier des charges, la documentation, pour un peu prendre les devants et puis être transparent. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est efforcé de faire avec Parcoursup. Bon, ça faisait partie de ma mission. Donc on a publié les algorithmes et le code. Donc là, vous avez le lien pour aller consulter les algorithmes, la documentation, le code, les exemples et les tests. C'est vraiment le code qui tourne en production. C'est le vrai code. Il n'y a pas de... Voilà. Bon, quand on l'a fait, ça avait fait un petit peu de bruit. Ça a été très commenté. La qualité du code a été très commentée aussi, d'ailleurs. Mais bon. Bon, il n'est pas si mal. En tout cas, voilà. Au niveau de transparence, déjà, ce que je vous ai expliqué sur les taux de boursiers, si vous allez voir ce document, ça sera expliqué, et même encore mieux que je l'ai fait, parce que c'est expliqué en détail, avec des exemples, etc. Ensuite, il n'y a pas que le code, il y a aussi les données qui sont importantes, hein, parce qu'un algorithme sans des données, c'est pas grand-chose. Il y a la même exigence au niveau de l'accessibilité aux données, qui ne peut pas non plus être totale, parce qu'il y a quand même une question de confidentialité, donc les identités des candidats et leurs vœux précis ne sont pas révélés, mais il y a quand même un effort au niveau open data, donc à deux niveaux. Vous avez un service du ministère qui publie en open data plein de données de Parcoursup, donc comme je vous l'ai dit, pas toutes les données, mais il y en a quand même énormément, donc en particulier... Formation par formation, vous pouvez voir combien ont candidaté, combien ont été pris. Donc finalement, vous pouvez faire vos petits calculs. Tel prépa est plus populaire que tel autre. Eux, ils ont plus de candidats. Eux, ils ont pris tout le monde. Eux, ils ont pris que 10%, etc. Donc c'est vraiment tout. Bon, ça, c'est un niveau de détail qui est déjà, on va dire, pour les spécialistes, enfin, pour vraiment les gens qui connaissent bien l'ESR. Voilà. Il y a aussi une carte pour les candidats où on peut faire des recherches sur les formations de Parcoursup, et il y a également des petites stats qui permettent éventuellement aux candidats d'évaluer leurs chances, donc le taux d'accès, si c'est 100%, ça veut dire que l'année précédente la formation a pris tout le monde, si c'est 50%, elle a pris un candidat sur deux, donc ça a l'air plus dur. Voilà. Il y a également des pourcentages pour indiquer est-ce qu'il y a plutôt des bacs généraux, des bacs techno ou des bacs pro qui ont intégré la formation, ça peut être intéressant aussi comme données. Bon voilà, ça c'est bon, la carte ça a été développée au Labri, au labo d'à côté, par David Aubert, et puis j'ai prêté main forte au niveau expertise métier. Et chaque année on l'a fait évoluer. Il y a aussi un petit système de recommandation qui va s'affiner là en 2022 pour faire des propositions aux candidats par rapport aux vœux qu'ils ont déjà fait, leur proposer des choses qui pourraient leur plaire. Oui. C'est vrai, ah ouais. Alors, un candidat ne peut pas être affecté à un endroit où il n'a pas fait de vœux. Donc, s'il a été affecté à Lille, c'est qu'il avait fait un vœu à Lille. Bon. Donc, voilà. Sinon, sur la carte. Oui. Et par ailleurs, si vous êtes candidat, si vous êtes connecté, la carte, au début, elle s'ouvre plutôt sur votre région. Si vous n'êtes pas connecté, je crois que ça ouvre sur cette vue-là de toute la France. Si vous dézoomez, vous pouvez voir les formations dans les dom-tom, etc. aussi. Il y a tout le panorama. Je ne sais plus à quelle heure se termine le talk. 45, d'accord. Ça marche. Ok, donc voilà pour la transparence. Quelles sont les limites à la transparence actuellement dans Parcoursup ? Il y en a quand même. Il y a la question épineuse des algorithmes locaux. Donc ce sont... finalement, les méthodes de classement, en général qui sont en partie manuelles et en partie automatisées, utilisées par les universités, par les écoles, pour produire les classements des candidats. Ça, il n'y a pas d'obligation de publication de ça, il y a une obligation d'information, mais assez générale, et c'est un point de conflit, hein, entre certains syndicats étudiants et le ministère là-dessus, pour... Alors quel est le frein? Il y a la souveraineté des jurys, il y a aussi le fait que, enfin je ne sais pas si vous avez déjà participé à des jurys de classement, c'est pas toujours évident d'expliquer entièrement la méthode qu'on a suivie, c'est voilà. D'un autre côté, pour l'instant, les informations données aux candidats sont vraiment parcellaires, donc il y a probablement moyen d'aller plus loin. Bon voilà. Il y a des pays où les formations disent, bah, nous on donne tel poids à telle matière, tel poids à telle matière, etc. Bon, c'est jamais aussi simple, parce que quand vous avez par exemple des candidats étrangers avec des bacs exotiques ou pas le bac qui arrivent, il faut bien les insérer dans le classement et vous ne pouvez pas utiliser les mêmes critères que pour les néo-bacheliers français, etc. Mais bon, voilà. En particulier, vous devez être au cœur de ce genre de préoccupation, le choix des spécialités au lycée, qui doivent être faits au lycée, sans savoir à l'avance comment elles seront prises en compte par les formations du supérieur, c'est un casse-tête. Et voilà, il n'y a pas suffisamment d'informations pour prendre des décisions informées, il faut le dire. Donc voilà, c'est un peu au pifomètre. Oui. Ah ben ça, il y a un dossier candidat avec toutes les infos sur le candidat, quelle spécialité il a choisi. Ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. C'est là, ça va sortir un peu de mon domaine de compétences. Avant tout, le classement, il est fait en interne à l'Université de Bordeaux. Voilà. Pas vraiment. Il y a un affichage de chaque type de formation en disant on privilégie telle et telle spécialité ou même on requiert telle spécialité. Okay. Mais après, au moment de la génération des classements, c'est utilisé en interne, hein, à ma connaissance. C'est pas du tout automatisé sur la plateforme nationale. Ouais. Alors, les commissions d'examen des vœux, si elles sont saisies par un candidat, elles doivent justifier de leur décision. Mais un niveau de détail qui reste, je crois, à l'appréciation de la dite commission. Donc je crois qu'elle peut se borner à dire, on a utilisé vos notes de maths dans les matières scientifiques sans préciser plus avant comment s'est déroulé le jury. Voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, au niveau Parcoursup, à l'époque d'APB, l'algorithme national était un peu boîte noire. Donc, comme je vous ai dit, il y avait eu les demandes de listing, SQL. Hein. Bon, avec Parcoursup, on a ouvert cette boîte noire. Les gens qui s'intéressaient au fonctionnement de l'algo national ont eu tous les détails, etc. Les commentateurs sur Internet, sur Twitter, etc. Et le débat, du coup, a plus été cet algorithme national, il s'est beaucoup focalisé sur les algorithmes locaux, qui n'étaient pas discutés à l'époque d'APB, puisque finalement, quelque part, les gens n'avaient pas forcément conscience de l'importance que ça avait sur les résultats. Donc on voit qu'en avançant dans la transparence, on a ouvert de nouveaux débats démocratiques, et voilà, donc ça va plutôt dans le bon sens. Même si tout n'est pas parfait. Alors je voudrais parler un petit peu... ouais, j'ai le temps. De sûreté. Donc, je vous ai parlé de la traduction de la loi en algorithme, donc avec cette part d'interprétation qu'on a vue pour les boursiers. Vous voyez la petite flèche blanche, parce que finalement, la réflexion sur les algorithmes a eu un impact sur la loi elle-même, que je vous ai expliqué. Bon, on pourrait discuter de ce processus davantage, mais je voudrais pas parler de cette flèche ici, la transformation des algorithmes en code. Le code de Parcoursup, c'est un système critique. C'est un système critique puisque s'il y a une défaillance, ça peut avoir quand même un impact considérable. Imaginez qu'il faille, je sais pas moi, rebooter toute la procédure d'admission mi-juillet, ce serait catastrophique. Okay. Donc on est sur des logiciels dont on doit vraiment garantir le bon fonctionnement le plus possible. Au même titre que certains logiciels qu'on trouve dans le métro automatique, dans l'aérospatial, okay, c'est des logiciels dans les TGV, une erreur a un coût très important sur des logiciels critiques. Donc première pratique, quand on est face à un logiciel critique, déjà il faut faire l'effort et prendre le temps de spécifier son comportement, spécifier ce qu'on attend de l'algorithme, spécifier ce qu'on attend du logiciel. C'est ce qui s'appelle une spécification. Dans le cas de Parcoursup, c'est une spécification semi-formelle, au sens où elle est rédigée en français, bon, avec quand même un petit peu de vocabulaire mathématique. Il faut savoir que dans le domaine de la vérification logicielle, de la sûreté logicielle, ça peut aller plus loin, il peut y avoir des spécifications carrément formelles dans des langages faits pour spécifier ce qu'on attend de l'algorithme. Voilà. Là, on n'est pas à ce degré-là, mais on a quand même pris le temps de poser une à une les différentes propriétés qu'on attendait des algos. Donc là, je vous donne l'exemple des propriétés attendues pour l'algo quand il n'y a que le taux boursier, il n'y a pas le taux de hors-secteur. Et c'est marrant parce que ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on garantit ? Propriété 1, pour tout K, donc K c'est la taille du préfixe qu'on regarde. Au moins QB, donc QB pour cent c'est le pourcentage du boursier. Là, au moins partie entière de QB pour cent fois K des candidats C1, CK sont boursiers, ou sinon aucun candidat parmi les candidats restants n'est boursier. Propriété 1. Propriété 2 dont on discutait tout à l'heure, un candidat boursier qui a le rang R dans le classement pédagogique, donc le classement initial, n'est jamais doublé par personne et aura donc un rang inférieur ou égal à R dans l'ordre d'appel. Donc il ne peut rien perdre. Donc là, une petite borne sur la descente maximum que peut subir un candidat non boursier, parce qu'il peut éventuellement descendre dans le classement. Une propriété globale pour dire que il y a plusieurs manières, à partir de classements pédagogiques, de faire un classement qui respecte les taux boursiers. On peut par exemple s'amuser à remonter tous les boursiers. Okay. Mais quelque part, on voit qu'on c'est pas bon, parce qu'on voudrait une sorte de principe de minimum de dérangement possible du classement initial. On veut le plus possible respecter le classement initial, et le chambouler le moins possible, tout en garantissant la première propriété. Donc, propriété 4, comparé au classement pédagogique, l'ordre d'appel minimise le nombre d'inversions, donc qui s'est également appelé distance de Kendall-Tau, parmi ceux qui garantissent la première propriété, donc celle qui est la plus importante. Okay. Voilà, ça, c'est une autre propriété de l'algo. Et une cinquième propriété. Donc on a ces propriétés spécifiées formellement, ou en tout cas qu'on peut formaliser facilement. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On veut être sûr que l'algo les vérifie. Alors la première, la façon la plus rapide de le faire, bon, la façon vraiment la plus rapide de le faire, c'est de lancer quelques tests sur quelques données. Okay ? Bon. Et le test permet de détecter des bugs, mais il ne permet jamais de prouver l'absence de bugs, puisque vous avez une infinité de données d'entrée possibles pour votre algo, et vous n'aurez jamais des tests exhaustifs sur tous les scénarios possibles. Okay ? Donc ce qu'on a fait dès le début de Parcoursup, on a fait ce qui s'appelle de la vérification à l'exécution de la spécification. Donc en fait, comment ça se passe ? Vous avez les données d'entrée de l'algorithme. Déjà, vous avez une première étape de vérification de leur cohérence. Il faut voir que, là, je vous présente les choses dans un cadre assez abstrait et puré, mais en vrai, il faut se connecter à une base de données, il y a des champs un peu partout. Par exemple, le pourcentage de boursiers, rien ne dit qu'il est positif, peut-être qu'il vaut moins 10, 1000. Donc, par exemple, vérification de cohérence, tous les pourcentages sont entre 0 et 100. Bon, c'est plein de petits détails comme ça. Vérification de cohérence. Dans les classements, il n'y a pas deux candidats qui ont le même classement, parce que c'est pareil, ça mettrait tout par terre. Ok, bon, il y a plein de petites propriétés comme ça. Ensuite, on fait le calcul. L'algorithme, le code implémentant l'algorithme effectue le calcul, produit des données de sortie, et là, on fait une étape de vérification. Donc, les cinq propriétés que je vous ai montrées, on va les vérifier une à une sur le couple données d'entrée, données de sortie. En fait, je vous mens un peu. On vérifie que 3 des 5, parce que la quatrième et la cinquième, c'est trop difficile. Mais bon. Donc, on vérifie 3 des propriétés, ce qui est déjà pas mal, systématiquement. Okay. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, pour cet algo-là, il n'y a jamais eu d'alerte. Donc, la vérification est toujours passée, on a toujours respecté les propriétés. Pour l'algo qui envoie les propositions et qui gère les internats, il y a parfois eu des alertes, pour certaines raisons de notamment d'intégrité des données. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On interrompt le processus. Donc, le processus se déroule à Toulouse, sur les ordinateurs qui sont à Toulouse. Il y a une alerte SMS et email qui est envoyée, donc vers 1h du matin. Et là, on regarde ce qui se passe. Le téléphone sonne, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc, Ça n'a jamais été des problèmes de design d'algorithme, c'était des problèmes de cohérence des données d'entrée, parfois avec des faux positifs, rien de très très grave. Mais on a cette étape systématiquement de vérification. Donc quelque part, une fois qu'on a passé cette étape, peut-être que l'algorithme a un bug, mais pas sur les données qu'on a exécutées ce jour-là. Okay, donc son exécution, ce jour-là, on a une bonne garantie qu'elle est correcte. C'est de la vérification à l'exécution. En parallèle, on a un autre projet, donc qui est déjà avancé mais qui n'est pas encore terminé, qui va plus loin, qui est de la preuve formelle de conformité de l'algorithme à ses spécifications. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est plus drastique, c'est prouver une fois pour toutes mathématiquement que quelles que soient les données d'entrée, les 5 propriétés que je vous ai énoncées, et en fait d'autres, seront vérifiées à coup sûr. Alors, il y a différents niveaux de preuve. D'abord, il s'agit de réaliser les preuves de manière mathématique, c'est-à-dire en gros en rédigeant un document lisible par un mathématicien, ça c'est le premier niveau, en utilisant la tech. Bon, ça c'est fait. Ensuite, vous savez comme moi que les preuves mathématiques rédigées par des humains pour les humains, il y a toujours des petits trucs qu'on laisse, ça c'est trivial, la preuve est laissée au lecteur, ou même on pense pas à un cas, et puis le lecteur non plus, etc. Donc niveau d'après, c'est faire une preuve formelle en utilisant des outils comme Y3 et des SMT solvers qui sont capables de vérifier en détail qu'on n'a oublié aucun cas et que la preuve est vraiment est certifiée par ordinateur. Donc vous avez différents systèmes qui peuvent faire ça. Vous pouvez faire des preuves en coq, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Là, en l'occurrence, on a utilisé Y3 et on a prouvé qu'une implémentation, alors c'est pas l'implémentation Java, la vraie qui tourne à Toulouse, c'est une implémentation en YML. On a prouvé que cette implémentation, pour le coup, avait les 5 propriétés. Je vous ai énoncé pas les 3, mais les 5. Okay. On a aussi montré la même chose pour le cas où on utilisait deux taux. Deux taux, donc le taux boursier et le taux de hors secteur. Il reste à faire le travail sur l'algorithme qui envoie les propositions. Bon. Qu'est-ce que ça permet de faire ? Une fois qu'on a prouvé l'implémentation YML, on peut en extraire une implémentation CAMEL de référence qui est une implémentation du coup en code machine, bon pas vraiment en code machine mais en langage de programmation, qui est certifiée par les outils qu'on a utilisés. Donc elle est de très haute, elle est très fiable. Okay, donc cette implémentation CAMEL n'est pas entrée en production encore, mais potentiellement elle peut entrer en production. En tout cas, elle peut être exploitée pour faire de la vérification à l'exécution, du test, etc. Ça fait une référence. Également, en parallèle, il y a une preuve du code Java, cette fois-ci, qui a été faite. C'est plus dur à faire, vérifier du code Java, c'est plus difficile à faire parce que la sémantique est moins claire et la forme du langage est impératif est moins facile à gérer par des outils. Bon, là, il y a OpenJML qui a permis de prouver une partie du code Java et qui a trouvé un bug. Si plus de 21 474 636 candidats candidataient pour une même formation, il y avait un dépassement arithmétique qui faisait que les résultats de l'algorithme étaient incorrects. On n'avait pas prévu ça. Bon, heureusement, on n'est pas en Chine, donc on n'est jamais monté à 21 millions de candidats, mais quand même, ça a permis de trouver un bug potentiel. Ouais. Ça a mené à plusieurs publications. Deux collègues du LRI qui avaient commencé le travail, et ensuite moi-même et des collègues du Labri et Claire Mathieu qui avons continué le travail. Donc récemment, on a fini de prouver l'algorithme de calcul des ordres d'appel. On va pouvoir passer à l'algorithme des propositions. Ok, il me reste encore 2 minutes. Bon. Alors, au niveau plus généralement des bonnes pratiques, quand on veut passer la loi au code, Parcoursup n'est pas le seul exemple, loin de là, d'algorithme de décision publique. Par exemple, Scorecurve, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un algorithme qui est utilisé pour l'attribution des greffons cardiaques. Donc vous avez un accident d'un donneur potentiel d'un greffon cardiaque, il faut agir vite, vous avez une liste de gens qui attendent un greffon, et il faut décider à qui transplanter le cœur. Comment faire ? Donc c'est un système de score qui est à une époque... Alors à une époque c'était un peu comme APB dans les années 80, c'était géré par les médecins eux-mêmes, de manière collégiale, mais pas forcément transparente. Maintenant, c'est un algorithme qui a déterminé des critères. Il y a tout un nombre de critères, les chances de survie du receveur, la distance du greffon à l'hôpital où peut se pratiquer l'opération, etc. Il y a plein de l'âge, voilà, plein de critères. Et il y a un algorithme Scorker qui dit, bon, ben voilà, le greffon, il va aller là-bas. Également, le calcul des impôts. Il faut éviter qu'il y ait un bug. C'est un autre algorithme de décision publique. Avec un travail sur un langage Catala qui permet de sécuriser une partie du code avec des mêmes genres de techniques que je vous ai montré là, niveau sortie du code. Il y a un mouvement un peu international avec le mot-clé Rules as Code lancé par l'OCDE. Il y a une réflexion notamment en Nouvelle-Zélande sur comment gérer finalement les algorithmes de décision publique et comment rapprocher les lois et les algorithmes qui les exécutent en partie. Donc là-dessus, on a un petit projet avec des chercheurs en informatique, donc du Labri, et en droit des collègues de Nantes, avec une doctorante, Aïda, qui travaille sur le sujet, qui est dans la salle, pour faire un peu un panel des bonnes pratiques, faire le point sur la réflexion sur ces sujets, avec un point de vue pluridisciplinaire. Voilà. Alors, voilà, j'ai épuisé mon temps. Donc je ne vous parlerai pas de l'algorithme des internats, c'est dommage, c'est le plus intéressant. Ah, vous voulez ça, ou alors vous me donnez 5 minutes encore, c'est vrai? Ok. Y a cette histoire d'internat en CPGE. Alors, ça a l'air de rien, mais c'était le truc le plus épineux au niveau algorithmique. Cette année, les internats. Donc, les CPGE, c'est joli. Beaucoup d'entre elles proposent des places d'internat. Alors, ça crée des dilemmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux classements pour ces formations. Il y a un classement à l'internat sur critères sociaux, du genre éloignement du domicile à la classe préparatoire, revenu des parents. Voilà. Et par ailleurs, il y a le classement pédagogique. Pour entrer en MPSI, il faut être bon en maths, etc. Okay. Donc vous avez deux classements potentiellement contradictoires, parce que ce n'est pas forcément les plus méritants à l'internat qui ont les meilleures notes. Voilà. Et les candidats peuvent demander soit la MPSI sans internat, bon, ça ne pose pas trop de problèmes, soit ils sont hauts dans le classement, ils l'auront, soit pas. La MPSI avec ou sans internat, bon, ça va. Ou encore la MPSI, mais seulement s'ils ont une place d'internat. Donc là, une sorte le candidat dit, ok, je viens, mais dans ce cas, il faut m'héberger. Donc c'est un peu comme à Noël, quand vous avez toute la famille qui vient chez vous pour Noël. Ah mais nous, faut nous héberger, donc ça peut coincer. Parce qu'en général, il y a moins de places aux internats que dans les formations. Hein. Vous avez une dizaine de places à l'internat et 40 dans la MPSI. Cerise sur le gâteau, il y a des internats qui sont partagés par plusieurs formations. Donc là, on a carrément plusieurs classements pédagogiques, potentiellement en contradiction avec un même classement internat. Bon. Alors, exemple de dilemme, vous avez une seule place en MPSI et un seul lit à l'internat, et vous avez le choix entre deux candidates, Alice qui est première au pédagogique et centième à l'internat, Béa qui est troisième au pédagogique et seconde à l'internat. Et les deux exigent l'internat pour venir. Voilà. Donc vous n'allez pas pouvoir prendre les deux, il va falloir trancher, et c'est l'algorithme qui va devoir le faire automatiquement pour tout un tas d'exemples et de cas comme ça. Okay. Donc vous voyez que c'est délicat, parce que le donner à Alice, ok, elle est première au pédagogique, mais elle n'a vraiment pas besoin de l'internat. Centième, ça veut dire que peut-être elle habite dans la ville, voilà, elle exagère d'exiger l'internat pour venir quelque part. Béa, ok, elle a des moins bonnes notes, mais seconde à l'internat, elle a vraiment besoin de l'internat. Et puis si on ne lui donne pas cette place, il y aura un lit vide. En plus, à l'internat, on va perdre une place d'internat. Donc, que faire? C'est délicat. Alors, vous vous rappelez que sans internat, je vous avais parlé de ces barres d'admission dans chaque école. Je vous avais dit, en gros, l'algorithme de Gale-Chaplet, il calcule un maximum global parmi les barres admissibles qui ne créent pas de surcapacité. Okay. Ça, c'est sans internat. Avec internat, finalement, le problème peut se voir en deux dimensions. Vous avez les classements pédagogiques en ordonnée, du mieux au moins bon. Et puis vous avez les classements à l'internat en APSIS. Pareil, à gauche, classé. Alors, à gauche, c'est les gens qui ne demandent pas internat. Et ensuite, premier à l'internat, second à l'internat, troisième à l'internat, etc. etc. Okay. Donc, l'algorithme qui va gérer ça, il va se baser sur des barres d'admission, mais cette fois-ci, il y en aura deux. Il y aura une barre à l'internat, ici, et une barre au pédagogique. Et qui va recevoir une proposition ? D'abord, tous les candidats qui sont en dessous de la barre pédagogique et qui n'ont pas demandé d'internat, parce que ceux-là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, tous les candidats qui sont également en dessous de la barre pédagogique et qui sont suffisamment bien classés à l'internat. Okay. Donc, ça, c'est ce qu'on veut. C'est un principe qu'on veut qu'on utilise dans l'algorithme. Maintenant, le point délicat, c'est de calculer ces deux barres, finalement. Ces deux barres d'admission, comment est-ce qu'on les calcule ?
Je comprends pas bien. Ouais.
Ah ouais, c'est un bug. Il ne devrait pas y avoir de rond rouge ici. Ouais, excusez-moi, vous avez raison. Par contre, C6, on voit que lui, il était bon pédagogique, mais pas assez bon à l'internat. Donc il est rejeté. Là, effectivement, il ne devrait pas y avoir de points. C6, lui, comme il est sur cette ordonnée-là, il était 6e au pédagogique. Donc comme la barre est à 9, c'est bon, il était au-dessus. Par contre, à l'internat, il était 7e, donc il est au-delà de la barre limite d'admission à l'internat. Donc on ne le prend pas.
Ça ne garantit pas de remplir toutes les places.
Non, en fait, enfin, il n'y a pas. Enfin, je vais argumenter, il n'y a pas de solution miracle. Alors, quand même, en réfléchissant au problème, on a fini par trouver un théorème pour nous aider un peu. Donc on va déterminer des barres d'admission dans chaque internat et dans chaque école. Alors pareil, on veut un critère d'admissibilité, pas de surcapacité dans les internats, en supposant que chaque candidat reçoive des propositions, une proposition dès lors qu'il passe sous les deux barres. Okay. Et évidemment, on veut des barres d'admission les plus hautes possibles pour remplir au maximum les internats. Alors théorème, l'ensemble des barres admissibles d'internat admet un maximum global, calculable par un algorithme de points fixes. Donc ce théorème, finalement, nous donne une solution propre au problème, dans le sens où c'est une solution qui va dépendre des données du problème, déjà indépendamment de l'ordre de votre présentation des données. Okay, vous voyez, vous pouvez renommer les écoles, les internats, ça donnera la même solution. Elle est canonique, au sens où on peut expliquer ce qui est fait, c'est on essaie de remplir au maximum les internats sans surcapacité. Voilà. On était assez soulagés quand on a trouvé ce théorème, parce que ça, c'était après 3 semaines de discussion avec des économistes spécialistes du sujet qui n'ont jamais vraiment proposé quelque chose enfin, qui paraissait adapté. Alors, il a un point faible, c'est que ça fonctionne. Dans le cas de Parcoursup, au fil de l'eau, c'est bon. Pour des vœux non hiérarchisés, on a ce théorème. Si les vœux étaient hiérarchisés, on n'aurait pas un théorème aussi beau. C'est-à-dire que là-dedans, là, sans vous le dire, là j'ai parlé de propositions. Okay, donc je parle de l'admissibilité aux internats sur les propositions. Mais si j'étais capable de calculer d'avance les réponses aux propositions, j'aurais plus un théorème aussi joli. Voilà. Et c'est encore un problème ouvert, finalement, de trouver une bonne solution simple et efficace si les vœux sont hiérarchisés. Je pense que c'est vraiment ouvert, parce qu'en parlant avec des économistes spécialistes du domaine, il n'y avait pas de belle solution aussi simple que ça. Bon. Alors, ce maximum global, il est calculable avec un algorithme de points fixes, donc qui est implémenté dans le code. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une solution qui marche finalement au jour le jour pour les vœux non hiérarchisés. Bon. Mais on voit bien que dans la temporalité de Parcoursup, on ne peut pas raisonner seulement au jour le jour pour les internats. Il faut finalement réserver des places pour plus tard les candidats les plus méritants à l'internat. Donc cet algo de base est régulé par un système d'ouverture progressive des internats, et chaque année ça évolue. Ça montre qu'on n'a pas encore la bonne solution. En 2018, c'était une ouverture progressive des internats linéaire dans le temps. Bon. En 2020, on a raffiné en utilisant un estimateur du dernier appelé au pédagogique, donc on essaie de prédire où est-ce qu'on s'arrêtera dans le classement pédagogique pour bien cibler la réservation des places. En 2022, on est en train d'améliorer l'estimateur. Chaque année, il y a un groupe de travail. Là, il y a quelques jours, c'était avec... donc, il y avait la proviseure adjointe de Louis Legrand, il y avait un professeur de mathématiques en classe prépa à Tours,
Voilà, il y avait différents interlocuteurs autour de la classe, chacun avec des problématiques différentes. Louis Legrand, par exemple, leur convergence pédagogique, c'est très rapide. Ils veulent vite, vite proposer les places d'internat. À l'inverse, dans des plus petites prépas, il faut au contraire y aller mollo, parce que si on donne trop vite les internats, on va créer des injustices. Quand on va descendre plus bas dans le classement, il n'y aura plus de place. Voilà, c'est un problème épineux. Si vous avez des idées, je suis preneur, vous pouvez venir discuter après le talk. En tout cas, on essaie de faire le mieux possible. Et à chaque fois, ces évolutions, elles sont documentées. On met à jour le site web que je vous avais montré, y compris la documentation comme le code. Donc, quelque part aussi, cet effort de documentation et d'ouverture du code, ça veut dire qu'on ne peut pas aller, à mon avis, sur des solutions trop alambiquées. Vous savez, on parle de l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, etc. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'acceptable dans ce cadre. Il faut quand même rester sur des choses claires. On est capable de dire ce que font les algorithmes. Donc il faut rester sur des choses simples, explicables et quand même efficaces. Voilà. Bon, et je ne vais pas vous parler des simulations, mais il y a tout un travail sur la simulation de la procédure, etc. Je vais directement conclure et vous proposer de poser des questions si vous en avez. À ma connaissance, il n'y a pas de préclassement. C'est les établissements sont les commissions d'examen des vœux sont les seules à produire des classements. Alors sur votre question sur les algorithmes locaux, ce qui se passe concrètement, c'est qu'en général, il y a une partie manuelle qui typiquement, par exemple, un premier filtrage des candidatures avec une ventilation par type de bac ou par spécialité maintenant. Éventuellement des critères éliminatoires pour réduire la liste des candidats initiales. Et ensuite, une fois fait ce premier travail de sélection, c'est vrai que là, souvent, dans beaucoup de formations, il y a des algorithmes locaux qui interviennent, qui sont en gros des feuilles Excel, où on pondère les notes et on crée un ordre strict entre les candidatures sur la base des notes. Voilà. Mais vraiment, ça... Il y a une seule phase, c'est que la liste des candidatures va à la commission d'examen des vœux, elle ressort un classement, et cette partie-là est gérée par les établissements, et pas du tout par la plateforme nationale. Alors ce qu'on fait quand même, juste, je vous en avais pas parlé, mais le simulateur, il crée un modèle des préférences des candidats et des formations, et on vérifie quand même les classements qui sont envoyés à la plateforme nationale, puisqu'il peut y avoir des erreurs. Par exemple... la commission d'examen des vœux fait son travail dans la douleur, envoie le listing au secrétariat, et là, malheureusement, tri par ordre alphabétique des candidats en cliquant sur la colonne, ou décalage d'une ligne de toutes les candidatures dans le fichier Excel, et potentiellement, il y a des classements erronés qui remontent ensuite à la plateforme nationale. Et là, nous, on a une passe de vérification, où on vérifie que, typiquement, par exemple, les classements pour rentrer en licence d'informatique... Le poids des matières scientifiques, il y a une corrélation non négligeable aux matières scientifiques, même chose pour STAPS, etc. Donc il y a quand même un travail de vérification. C'est un processus qui est délicat parce qu'il y a plusieurs milliers de commissions d'examen des vœux et il y a potentiellement des erreurs. Et voilà. Alors, ouais, je vais préciser ce que j'ai dit. Alors, donc il y a ces deux propriétés, là. On peut s'en tenir à la 4. Donc, cette histoire de l'ordre d'appel qui est calculé et minimise le nombre d'inversions parmi toutes les manières qu'il y avait de faire remonter des boursiers. Alors, ça, on l'a prouvé formellement. Au niveau preuve formelle, ça passe. Pourquoi ? Parce qu'on peut construire mathématiquement et dans l'outil de preuve la notion de ensemble des inversions possibles, ensemble des permutations possibles du classement, montrer une propriété de minimalité. À vrai dire, c'est assez épineux à faire. Enfin, ça prend 3 secondes. Enfin, ça prend une demi-page en LaTeX et ça prend 10 fichiers Y3 à faire. Bon. Donc, on peut le faire au niveau preuve. Par contre, vérification à l'exécution, c'est un peu fastidieux. Si on voulait vérifier à l'exécution à chaud, il faudrait finalement comparer la permutation de l'ordre d'appel à toutes les permutations possibles qui auraient pu être faites. Et là, comme vous en avez un nombre factoriel, je veux dire, bon, c'est calculable, mais votre vérification d'exécution va terminer un an plus tard. Quoi. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas faisable à runtime. Quoi. Voilà. Donc on voit les limites aussi de la vérification et l'exécution. Alors l'avantage c'est que dès la première année on a pu le faire parce que c'est assez léger à faire finalement, c'est un module Java qui est spécialisé là-dedans. Par contre on a moins de fiabilité qu'avec de la preuve et on peut aller moins loin aussi au niveau expressivité des propriétés à vérifier. Oui. Non, non, le cursus post-bac est intégré. Je sais que ça peut être des questions épineuses pour les commissions de classement parce que d'un côté, il y a un droit à la réorientation. On a le droit de se planter sur sa première année de licence. D'un autre côté, il y a des formations qui sont tellement demandées que déjà, ils pourraient piocher que dans les néo-bachuyers et dire bon, nous, les redoublants ou les réos, on n'en veut pas. Donc c'est épineux, la place des réos, parce qu'ils apparaissent clairement comme non néo bachelier déjà sur leur année au bac qui est dans le dossier, leur année d'obtention du bac, comme c'est pas l'année enfin disons les néo bacheliers ont pas encore leur bac, eux ils ont déjà leur bac, donc déjà ils sont dans la catégorie réo. Donc voilà, ça c'est à chaque commission d'examen des vœux de gérer ça. Bon, il y a quand même des, je crois qu'il y a des cadres, hein. Il y a un autre point épineux, c'est que dans la dynamique de Parcoursup, et c'était déjà un point épineux pour APB et ça reste dans Parcoursup, vous avez beaucoup de gens en réorientation qui ont demandé, qui ont fait des vœux de réorientation, puis qui finalement décident de continuer. Donc, par exemple, parce que c'était des vœux de secours au cas où ils n'auraient pas leurs examens, et puis finalement ils ont eu leurs examens, et puis c'est très bien. Ou alors finalement ils se sont ravisés, etc. Notamment, vous avez des résultats, je crois, en médecine qui tombent mi-juillet. Donc ce qui fait que mi-juillet, tout d'un coup, vous avez un gros pool. Alors, il y a deux sous-cas. Il y a les candidats qui préviennent que finalement ils ne sont plus intéressés par les propositions qu'ils ont eues sur Parcoursup. Donc déjà, ça fait un appel avec des nouvelles propositions, mais mi-juillet, déjà, on est tard dans la procédure. Et il y a ceux qui ne préviennent pas. Et on s'en aperçoit seulement en septembre, ça fait des sièges vides. Donc vous voyez, ça, c'est un problème épineux à résoudre. Et du coup, il y a des algos de surbooking qui essayent de prédire ça et de réserver un peu, de faire des surréservations de places pour gérer ça. Ah, une autre question.
Est-ce que vous arrivez à modéliser un peu justement le temps que ça prend ? C'est contrôlé par le temps pour les sous-jours pour répondre, mais est-ce que vous arrivez à dire on leur a laissé 3 jours, puis 2 jours, puis 20 jours, je ne sais plus.
Ouais.
Ouais.
Alors il y a sur cette temporalité, donc ça a été très discuté parce que la fin de la hiérarchisation des vœux, ça a mené à un processus plus lent. Plus lent, bon. Alors, je voulais en parler, hein. Je vais vous mettre les courbes. Voilà. Donc moi quand je suis rentré sur le projet en 2017, dès le début, se poser des questions justement de... voilà. Le genre de questions que vous avez posées, par exemple, des questions de convergence, est-ce qu'on va encore avoir des milliers de propositions quotidiennes en juillet ? Là, on aimerait quand même que la procédure soit terminée. Enfin, en juillet, c'est un peu en France, en août, vous savez comment c'est. Tout le monde est en vacances, personne n'a envie de courir de ville en ville chercher une formation. Bon. Calibration, quel devrait être le nombre maximum de vœux par candidat autorisé ? Sachant qu'on ne peut pas non plus laisser filer le nombre de vœux, sinon ça fait un gros travail derrière pour les commissions d'examen des vœux. Calibration, quels devraient être les délais maximum de réponse, comment accélérer le processus, etc. Donc dans votre question sur la temporalité, il y a la temporalité du délai laissé au candidat. Ensuite, qu'en font-ils de ce délai ? Est-ce qu'ils répondent directement ou est-ce qu'ils mettent plusieurs jours ? Bon. Donc la première année, on n'avait pas d'expérience. On avait fait un pot au doigt mouillé en essayant d'être pessimiste sur les délais de réponse des candidats, parce qu'ils ne répondent quand même pas tous le dernier jour. Il y en a plein qui répondent immédiatement, un certain pourcentage. Maintenant qu'on a du recul, on a des modèles de ça, donc on sait dire à peu près, en fonction de où on est dans la procédure, combien de temps vont mettre les candidats pour répondre. mais quand même, donc on a des modèles, etc. Ça, c'était avant la première exécution de Parcoursup. En vert, c'est ce que j'avais simulé, ce qui se passerait. Et en bleu, c'est ce qu'on a observé. Donc vous voyez, on n'était pas... ça va, on ne s'est pas trop planté. Mais enfin, on ne s'est pas trop planté au niveau simulation numérique. Mais en fait, on s'est planté. On s'est planté parce que sur cette courbe, si on regarde que cette courbe, on se dit, tiens, en gros, là, mi-juillet, en gros, la procédure s'est terminée, on a convergé, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Il va y avoir une gestion résiduelle des démissions en août, mais c'est bon, mission accomplie. Ça donne le point de vue du designer du système global, et ça prend pas du tout, ça épouse pas du tout le point de vue des candidats. Les candidats étaient vraiment pas du tout contents avec cette première édition de Parcoursup. C'était vraiment douloureux pour eux, parce qu'en fait, les candidats savaient pas où on était dans la courbe, en fait. Donc, beaucoup de candidats, la procédure se terminait fin août, début septembre, beaucoup de candidats attendaient désespérément tout le mois d'août d'avoir de nouvelles propositions, d'avoir mieux, d'avoir le truc qu'ils attendaient, etc. Il y a une grosse aversion à l'attente et à l'incertitude. Finalement, ils n'étaient pas encore vraiment fixés. Donc ça, c'était vraiment un échec. Ça a mené lieu à beaucoup de critiques. Et donc, en début 2019, comment faire pour éviter ça? En fait, la solution... Le problème était d'ordre psychologique, et la solution était d'ordre psychologique aussi. Il a suffi d'annoncer à tout le monde que c'était terminé mi-juillet, ce qu'on appelle la fin de la procédure principale, et qu'ensuite, après mi-juillet, c'était la gestion des démissions, un truc dont on ne parle pas trop. En fait, c'est le même algorithme qui continue à tourner, comme la première année. Mais l'effet psychologique de cette barre a permis à dire à tout le monde ensuite l'année suivante, a dit « Ah ben cette année c'est beaucoup mieux, ça se termine plus tôt, ça va beaucoup mieux. » Voilà. Donc une solution psychologique et un problème psychologique, une bonne solution. Voilà, pour l'anecdote. Oui. Alors, je ne vais pas répondre de manière très scientifique, mais c'est clair qu'il y a une prime. Contrairement au modèle de Gale et Chapelet, les préférences des candidats évoluent dans le temps, en fait. Au sens notamment où les premières formations à leur faire des propositions ont quelque part un bonus du point de vue des candidats, parce que, elle est venue de moi, etc. Donc une formation, une école d'ingé qui va faire sa proposition dès le premier jour va augmenter ses chances d'avoir un oui définitif par rapport à la même formation qui ferait sa proposition au début juillet. Voilà. Alors, ouais. Également, ça se comprend très bien aussi pour des questions d'organisation. Par exemple, je cale un appart à Grenoble, Nancy me propose un truc deux jours après, je dis non, mais là c'est bon. Et il y a aussi une question d'accès à l'information, parce que quand on a une proposition, il y a un coût d'étudier finalement. Ah, c'était quoi cette école ? Il faut savoir qu'il y a des candidats qui font 200 vœux. Hein, c'est vrai. Oui. Parce que vous avez des concours communs qui regroupent des ensembles d'écoles. Il y a des gens qui font 200 vœux. Il y a des gens dans APB qui classaient 200 vœux. J'ai vu vraiment sur les données, ça c'est vrai. Donc dans leurs 200 vœux, ils savent pas précisément, ils connaissent pas précisément chaque école. Donc au moment où ils reçoivent la proposition, ils font un effort d'accès à l'information qui a un coût, et ça, ils ne vont pas le faire N fois. Donc, c'est pareil. Ce point-là, je ne prends pas en compte dans les modèles, mais ça a un effet réel. Et du coup, pour les formations, il y a une volonté d'aller le plus vite possible, notamment les écoles de commerce, les écoles d'ingé. Et il y a ce système de surbooking que j'ai évoqué. Elles ont tendance à vouloir pousser le curseur de surbooking très loin. Et là aussi, on a des algos pour mettre des limites, et dire il ne faut pas prendre non plus trop de risques, il ne faut pas pousser le curseur du surbooking au-delà de la capacité d'accueil. Donc il y a une régulation comme ça d'un phénomène stratégique qui a en plus prend de l'ampleur, puisque année après année, les formations apprennent Parcoursup, Les lycées apprennent Parcoursup aussi. Vous savez qu'il y a la question de la notation des profs, hein, quand même. Il peut y avoir une pression des familles pour donner des bonnes notes parce que le contrôle continu a un gros poids dans les classements Parcoursup ensuite. Donc il y a toute une, c'est un système complexe finalement, stratégique. Et il faut être capable de cadrer, et les algorithmes permettent en partie de cadrer en tout cas ces histoires de surbooking des formations. Ouais. Alors là, je vais complètement aller dans votre sens. Pour l'instant, on en demande beaucoup aux formations, puisqu'on leur demande de positionner des curseurs donc sur les sur-réservations, en se basant sur quoi ? Sur leur expérience du système, qui, par exemple, pour quelqu'un qui s'occupe de Parcoursup pour la première fois dans sa licence, peut être vraiment réduite. Okay ? Et on demande quand même de prendre des décisions stratégiques à des acteurs peu informés comme ça. À l'inverse, il y a des acteurs très informés, par exemple dans certaines écoles de commerce, qui connaissent très bien leur école. En face d'autres écoles ou d'autres formations où c'est plus laissé par défaut, et du coup, il y a une sorte d'inégalité dans Parcoursup. Alors, il y a un type de formation, les IFSI, dans lesquelles, de plus en plus, on prend la main, on a développé un algorithme, pour prendre la main sur les données d'appel, sur les surréservations, pour les passer un peu en automatique. Un peu comme ça se fait, je pense à la SNCF, Air France, etc. Hein, toutes les histoires de surbooking, c'est automatisé. Donc, on commence à proposer ça à certaines formations. C'est touchy parce que ça met le ministère en position éventuellement de responsabilité par rapport à ça. Alors que c'est vrai que c'est plus pratique de dire ah, mais la responsabilité est laissée aux responsables de formation. Mais je pense qu'il faut aller vers ça. Moi, je serais pour aller vers une automatisation complète du processus de surréservation pour des raisons d'équité entre formations et pour plus en demander autant aux responsables de formation qui ont déjà largement leur lot de responsabilités administratives de toutes sortes. Quoi. Ouais. Effectivement, dans. C'est vrai que, par exemple, parfois dans le cas des portails, la responsabilité du curseur de surréservation, elle est laissée à un personnel administratif qui n'est pas à ce niveau de responsabilité-là et qui n'a pas de raison de prendre aucun risque. Et alors que vous, par exemple, en tant que responsable, vous auriez peut-être plus de finesse, vous n'avez pas accès au curseur. Donc, ça aussi, c'est un problème. On voit, y a un problème d'équité. Finalement, vous pouvez être en défavorisé par rapport à des écoles d'ingé ou des BTS ou des IUT qui sont plus rapides à la détente. Donc, effectivement, c'est un sujet. Ouais. Ça, une façon de faire, c'est éventuellement de se regrouper entre formations similaires pour faire les classements à plusieurs. On pourrait imaginer que... dans le cas de la licence de maths, ça ne marche pas très bien, mais si vous avez plusieurs BTS...
Le portail, c'est la même classement qui était pour tout le portail.
Ah oui, en plus, ouais.
Du coup, le poids... Ouais.
Ouais.
On est comme on est avec la biologie, par exemple, on accorde à peu près la biologie à tâche d'importance à gros français, par exemple. Donc, on a un classement qui ne va pas tenir compte de la spécificité de la... Ouais.
Ok. Monsieur ?
Est-ce que dans ce parcours, toutes les écoles y participent ? Parce que j'ai cru entendre
Ouais. Alors, à ma connaissance, ouais, toutes les formations publiques ou privées sous contrat, à ma connaissance, sont sur la plateforme ou sont en train d'y entrer. Parce que bon, c'est quand même un petit changement. Si, 4 JA, ouais. Oui, voilà, ouais. Non, mais je veux dire, ouais. Je ne mettrai pas ma main au feu qu'il n'y en ait pas encore quelques cas particuliers. Alors, les Sciences Po, ça a mis du temps, etc. Enfin bref, il y a toujours des petits cas. Et puis il y a des formations pour lesquelles ce n'est pas forcément adapté, en musique, etc. Ce n'est pas forcément la bonne manière de... Bon. Voilà. Ouais. Alors, il y a eu un pic démographique qui est en train de. Au sens du. Parce que la première variable, c'est le nombre de néo-bacheliers, hein, quand même, chaque année. Et ça, c'est pas stable. Donc, il a été en augmentation. En face, il y a eu un nombre d'augmentations de places quand même conséquent. Alors, après, beaucoup en licence, hein, qui n'est pas forcément le plus demandé toujours par les candidats. Mais ça, c'est un peu au niveau du pourcentage d'accès, c'est stable, voire en progression. Bon. Après, il faut savoir qu'au fond, il y a suffisamment de place dans Parcoursup pour accueillir tout le monde. La question, c'est l'adéquation de l'offre et de la demande. Voilà. C'est ça la problématique. C'est... Alors, la satisfaction, chaque année, il y a un sondage. Un sondage qui est publié ensuite par le ministère, je crois que c'est confié à IFOP. Bon, un sondage, c'est un sondage, hein, voilà. Mais il y a vraiment cette problématique d'adéquation de la demande et de l'offre. Et puis, enfin, vous avez des filières saturées qui, par ailleurs, n'ont pas de débouchés, ou peu. Ailleurs, vous avez des BTS, des IUT où il n'y a pas assez de candidats, alors que derrière, c'est des débouchés sans souci. Donc, il y a un gros travail à faire aussi au niveau orientation et aide à la formulation des vœux, finalement. Et ça, c'est un dossier qu'on ouvre aussi, auquel je participe, pour voilà, essayer de conseiller pas forcément directement les candidats, mais éventuellement aussi les professeurs principaux. Sur, avec des alertes de type ce candidat demandait telle et telle formation mais pas celle-là, vous pouvez éventuellement lui en parler parce que par exemple il y a des bons débouchés et il a peut-être oublié il y a peut-être pas pensé, etc. Enfin, voilà. Il y a un gros travail à faire sur l'orientation, c'est pas juste une question de moyens, c'est aussi une question d'adéquation et de pertinence des projets d'orientation des lycéens, quoi. Voilà.
Peut-être que les questions peuvent être en bas de l'amphi, après, parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui se sont dit.